France Inter, un ami nommé Jacques Brel. Un feuilleton de la RTBF et des médias francophones publics. Aujourd'hui, le métier, la chanson.
Une cigarette pour Jacques Brel.
Vous avez chanté combien de chansons?
Ah, je sais pas bien, une vingtaine.
C'est tous les jours comme ça?
C'est tous les jours comme ça, une fois ou deux fois. Ça dépend, aujourd'hui c'est deux fois. Pendant à peu près 10 mois et demi par an.
Chanter, c'est quoi? C'est un acte d'amour ou c'est une bataille?
Mais l'amour est une bataille, il y a les deux. Il y a les deux, il y a que j'ai envie de les aimer. Puis parfois je dois me faire violence. Et puis parfois je dois un peu les violenter eux pour que s'établisse une espèce de complicité un peu amoureuse entre eux et moi. J'aime me battre parce que, enfin comme ça, de manière, c'est la chemise qui commence à coller là. J'aime me battre parce que c'est dans ma nature, enfin. J'aime bien ça, j'ai horreur de m'en remettre. Moi j'aime plus la tendresse que l'amour. J'aime l'amour, j'aime la chaleur.
Ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut. Mathilde, Bounia, tu peux garder ton vin. Ce soir, je boirai mon chagrin. Mathilde, revenue. Toi la servante, toi la Maria, faudrait peut-être mieux changer nos draps. Mathilde, revenue. Mes amis, ne me laissez pas, non. Ce soir, je repars au combat. Maudite Mathilde, puisque te voilà. Mon cœur ne t'emballe pas, fais comme si tu ne savais pas que la Mathilde est revenue. Mon cœur, arrête de répéter qu'elle est plus belle qu'avant l'été, la Mathilde qui est revenue. Mon cœur, arrête de brinque-baller, souviens-toi qu'elle t'a déchiré, la Mathilde qui est revenue. Mes amis, ne me laissez pas, non, dites-moi, dites-moi qu'il ne faut pas. Maudite Mathilde, puisque te voilà. Et vous mes mains, restez tranquille, c'est un chien qui nous revient de la ville. Mathilde est revenue. Et vous mes mains, ne frappez pas, tout ça ne vous regarde pas. Mathilde est revenue. Vous mes mains, ne tremblez plus, souvenez-vous quand je vous pleurais dessus. Mathilde est revenue. Ne vous ouvrez pas, vous mes bras, ne vous tendez pas, sacrée Mathilde, puisque te voilà. Ma mère, arrête tes prières, ton Jacques retourne en enfer. Mathilde, est revenue. Bounia, apporte-nous du vin, celui des noces et des festins. Mathilde, est revenue. Toi la servante, toi la Maria, va tendre mon grand lit de drap. Mathilde, m'est revenue. Amis, ne comptez plus sur moi, je crache au ciel encore une fois. Ma belle Mathilde, puisque te voilà, te voilà.
1952, Brel veut devenir chanteur professionnel. Débutant comme fantaisiste à la Rose Noire, rue des Bouchers à Bruxelles, il enregistre son premier 78 tours le 17 février 1953. Il décide, quelques mois plus tard, de tenter sa chance à Paris. Là, un grand révélateur de nouveaux artistes, Jacques Canetti, l'attend. Le succès, lui, se fera attendre, au bout des longues nuits marathon de cabaret en cabaret d'une rive à l'autre de la Seine. Paris. Première déchirure par amour d'un métier d'une exigence inaltérable. Une nouvelle aventure qu'il aborde avec l'inconscience généreuse de sa foi en son étoile.
Je suis d'une famille qui travaille le papier enfin, depuis fort longtemps. Alors moi-même, j'ai débuté, si vous voulez, dans la vie en vendant du papier, en fabriquant du papier. Et puis, assez rapidement d'ailleurs, j'ai eu envie de noircir du papier. J'ai envie, comme j'avais certaines idées, enfin, moi, je croyais avoir certaines idées, comme à peu près tous les gars qui ont 20 ans ou 25 ans. J'ai voulu noircir du papier, et c'est comme cela que je suis arrivé à écrire des chansons, parce que ça m'a semblé une forme intéressante, et relativement commode, d'ailleurs, de la littérature.
Le père ne voulait pas qu'il garde son nom.
Pierre Brel.
À l'époque, tout le monde prenait ce qu'on appelle un nom de théâtre. Bon. Alors, discussion. Moi, je participe pas. Il décide qu'il va s'appeler Berel. B-E-R-E-L. Pendant 7 semaines, donc, il s'est appelé Berel. C'était l'époque où il avait une petite postage à coloriser. Il avait ses cartes de visite et tout le bazar. Et un jour, nous sommes à la maison. Moi, je suis dans la cuisine avec la mère. Je sais pas ce qu'on fait. Je le vois rentrer en coup de vent. Ce Berel, ça ne va pas. Hein. Ça ne ressemble à rien, ce nom. Je vais dire au père que je m'appellerai Brel et je vais lui dire que vous êtes d'accord tous les deux. Bon, il nous laisse là. Il a été discuté avec le père pendant 20 minutes et quand il est sorti, il s'est appelé Brel.
Sur la place chauffée au soleil, une fille s'est mise à danser, mais le tour toujours pareil aux danseuses d'antiquité. Sur la ville, il fait trop chaud, hommes et femmes sont assoupis et regardent par le carreau cette fille qui danse à midi. Ainsi certains jours paraît une flamme à nos yeux. À l'église où j'allais, on l'appelait le bon Dieu. L'amoureux l'appelle l'amour, le mendiant la charité. Le soleil l'appelle le jour et le brave homme la bonté. Sur la place vibrante des rochers, où pas même ne paraît un chien, ondulante comme un roseau, la vie bondit, s'en va, s'en vient. Ni guitare, ni tambourin, pour accompagner sa danse, elle frappe dans ses mains pour se donner la cadence. Ainsi certains jours paraît une flamme à nos yeux. À l'église où j'allais, on l'appelait le bon Dieu. L'amoureux l'appelle l'amour, le mendiant la charité. Le soleil l'appelle le jour et le brave homme la bonté. Sur la place où tout est tranquille, une fille s'est mise à chanter et son chant plane sur la ville, hymne d'amour et de bonté. Mais sur la ville il fait trop chaud et pour ne point entendre le chant, les hommes ferment les carreaux comme une porte entre morts et vivants. Ainsi certains jours paraît une flamme dans nos cœurs, mais nous ne voulons jamais laisser luire sa lueur. Nous nous bouchons les oreilles et nous nous voilons les yeux. Nous n'aimons point les réveils de notre cœur déjà vieux. Sur la place, un chien hurle encore, car la fille s'en est allée. Et comme le chien hurlant la mort, pleurent les hommes leur destinée.
René Hénoumont, journaliste et écrivain.
C'est exactement au grenier de la Rose Noire, parce que la Rose Noire, c'était plus précisément le dancing avec l'orchestre de jazz au rez-de-chaussée. Et le grenier était au premier étage, et c'était un endroit un peu feutré, comme ça, un peu secret, où on trouvait beaucoup de journalistes, enfin certains journalistes. Le décor était constitué de vieux fauteuils et de faux portraits de famille. Ben, c'était exactement l'après Saint-Germain-des-Prés. Alors Jacques était là avec deux chansons, avec Grand Jacques et le Grand Jacques et le Diable. J'ai encore la phrase « Ça fait des morts originales » pour le restant de mes jours, je l'aurai dans l'oreille. Parce que je pense avoir passé plus de 3 mois avec Jacques Brel tous les soirs au grenier de la Rose Noire. Je crois que Louis Ledu, le patron, lui accordait royalement 50 francs par soirée. Il avait droit à 2 whisky. Et les deux whisky, en général, c'était moi qui les buvais, parce que Jacques n'était pas buveur de whisky. Alors, ce qui m'a toujours sidéré, je me suis fait la réflexion souvent après, qui de nous a su que nous avions côtoyé pendant cette période une très grande vedette à venir? Personne n'aurait pu le dire. Et c'est ça qui est quand même extraordinaire. Parce que dans ces chansons, Brel y était déjà. L'époque y était déjà. C'est la fin de la guerre de Corée, c'est encore la guerre d'Indochine, l'Indochine française, c'est encore la guerre froide qui va se terminer, mais il y a beaucoup de choses qui vont éclater. Et quand vous lisez le texte des deux chansons de Brel, tout est là en puissance. Il y a la crise de Cuba, il y a le péril atomique, il y a l'incertitude de l'avenir, il y a ce monde qui menace d'exploser et qui va presque le faire dans les années à venir.
Jacques Nellens.
J'avais quand même 18 ans à l'époque, donc j'ai un souvenir d'un chanteur qui me touchait très fort. J'étais encore étudiant et je l'ai rencontré à Bruxelles, à la fameuse Rose Noire. Et là, il passait durant tout un mois et nous, jeunes étudiants, de 18 ans, nous allions passer nos soirées là et on l'entendait, il faisait la manche, il passait avec une petite assiette après et on lui donnait, 5 francs ou 20 francs à l'époque. C'était vraiment, c'est tout début.
Moi, Radio Assel, je crois que c'est son premier enregistrement radio, hein. Ce monsieur lui a dit, voilà, vous venez enregistrer votre chanson. C'était un petit peu ce qu'il chantait quand on allait faire les soirées à la Franche Cordée, c'était ça.
Mich Brel au micro de Gérard Vallée.
Et on en a retrouvé beaucoup par la suite, même sur les compacts disques maintenant. Et il y en a qu'on n'a pas retrouvé, pourquoi?
Mon Dieu, moi je sais que je tapais ces textes à la machine de temps en temps. Je sais pas, quand on commençait à écrire, je ne se doute pas que ça allait avoir une telle importance. Oui, il y en a qui sont perdus sûrement.
France Inter, Jacques Brel.
C'était, à mon avis, ce qu'il appelait des chansons de jeunesse. Et vraiment, il a écrit ça entre 15 et 19 ans ou 20 ans.
Tous les enfants du roi, même s'ils ont des yeux bleus, peuvent quand même pleurer les dimanches pluvieux dans les chambres des châteaux de jadis, où sous le vent tout tremble, des châteaux de jadis, où sous le vent tout tremble. La nuit, tous les enfants du roi, même s'ils ont des yeux bleus, peuvent quand même prier les dimanches heureux aux chapelles. Prière à la Madone, prière toute belle, prière à la Madone, prière toute belle qui s'envole.
Nous avons retrouvé celui qui lui a tendu le premier un micro professionnel, Monsieur Van der Straten. Il se souvient de ses premiers enregistrements de Brel.
Ce fut tout au début des années 50 que j'ai rencontré Jacques Brel pour la première fois quand il est venu à Hasselt, au poste régional. Pourquoi Hasselt? Il est venu à Hasselt simplement parce qu'il avait fait une audition ici à la RTB et il n'avait pas passé. C'était un accueil enfin vraiment chaleureux et du premier moment et surtout avec ces chansons qui étaient à ce moment-là hein, dans la direction de ce qui se passait en Flandre en même temps.
Tous les chemins qui mènent à Rome portent les amours des amants déçus. Tous les chemins qui mènent à Rome portent les mensonges des anges déchus. Amour du matin, frais comme la rose, amour qu'on étreint en étreignant le jour. Tu étais si jolie, les lèvres mi-closes, me penchant vers toi, je t'ai dit toujours.
Ce sont des documents, ce sont des bandes magnétiques, mais le premier disque de Brel, c'est un souple, un 78 tours, comme nous disons ici, un 78 tours, c'est sa carte de visite pour Paris, et il y avait deux titres, Il y a et La Foire.
J'aime la foire où pour 3 sous, l'on peut se faire tourner la tête. Sur les manèges, aux chevaux roux, au son d'une musique bête, les lampions jettent au firmament alignés en nombre pair, comme des sourcils de géants, leur crachat de lumière. Les moulins tournent, tournent sans trêve, emportant tout notre argent et nous donnant un peu de rêve pour que les hommes soient contents. Les moulins tournent, tournent sans trêve, emportant tout notre argent et nous donnant un peu de rêve pour que les hommes soient contents. J'aime la foire pour trois sous, l'on peut se faire tourner la tête. Sur les manèges, aux chevaux roux, au son d'une musique bête, ça sent la graisse où dansent les frites, ça sent les frites dans les papiers, ça sent les beignets qu'on mange vite, ça sent les hommes qui les ont mangés. Partout je vois un petit pan, des couples qui s'en vont danser, mais moi sûrement je n'irai pas. Grand-mère m'a dit de me méfier, me méfier. J'aime la foire où pour trois sous l'on peut se faire tourner la tête. Sur les manèges, aux chevaux roux, au son d'une musique bête. Et lorsque l'on n'a plus de sous pour se faire tourner la tête, sur les manèges, aux chevaux roux, au son d'une musique bête, on rentre chez soi lentement et tout en regardant les cieux, on se demande simplement s'il n'existe rien de mieux. On rentre chez soi lentement et tout en regardant les cieux, on se demande simplement s'il n'existe rien de mieux. J'aime la foire où pour trois sous l'on pouvait se faire tourner la tête. Sur les manèges, aux chevaux roux, au son d'une musique bête, la 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 la.
Je suis arrivé à Paris, je ne connaissais personne. Je me suis amené avec, j'avais 4 ou 5 chansons à l'époque, et puis j'ai passé des auditions partout, et on n'a pas voulu de moi, bien sûr. Alors ça a duré un an et demi. Et puis petit à petit, on les a à l'usure finalement. Mm-hmm. On passe 8 jours dans un cabaret, 15 jours dans un autre, et puis ça démarre doucement. La première chanson, je crois que c'était la chanson qui s'appelle Le Diable, Ça va le Diable, et qui a été chantée par Gréco. Ça m'a aidé. Enfin, je ne sais pas si ça a été la chanson marquante, mais je sais que ça m'a beaucoup aidé au début.
Un jour, le diable vint sur terre. Le diable vint sur terre pour surveiller ses intérêts. Il a tout vu, le diable. Il a tout entendu. Et après avoir tout vu, après avoir tout entendu, il est retourné chez lui, en bas. Et en bas, on avait organisé un grand banquet. À la fin du banquet, il s'est levé, le diable. Il a prononcé un discours. Et en substance, il a dit ceci.
Ça va ? Il y a toujours un peu partout des feux illuminant la terre, ça va. Les hommes s'amusent comme des fous, dangereux jeux de la guerre, ça va. Des trains déraillent avec fracas, parce que des gars pleins d'idéal mettent des bombes sur les voies. Ça fait des morts originales, ça fait des morts sans confession, des confessions sans rémission, ça va. Rien ne se vend, mais tout s'achète. L'honneur et même la sainteté, ça va. Les États se muent en cachette. En anonyme société, ça va. Les grands s'arrachent les dollars. Venus du pays des enfants, l'Europe répète l'avare. Dans un décor de 1900, ça fait des morts d'inanition. Et l'inanition des nations, ça va. Les hommes, ils en ont tant vu que leurs yeux sont devenus gris, ça va. Et même l'on ne chante plus dans toutes les rues de Paris, ça va. On traite les braves de fous et les poètes de nigauds. Mais dans les journaux de partout, tous les salauds ont leurs photos. Ça fait mal aux honnêtes gens et rire les malhonnêtes gens. Ça va, ça va, ça va.
Eh ben, à part ça, ça va.
T'es maigre, ardent comme ça, avec des yeux comme du charbon de bois.
Juliette Gréco,
derrière laquelle il y a des braises. Il a l'air d'un loup comme ça, un animal un peu sauvage. Puis une guitare au bout d'un bras très long. Il a commencé à chanter. Il a commencé à chanter et moi j'ai commencé à fondre complètement, à me dissoudre totalement. J'étais éblouie, émerveillée. Et puis, il n'était pas très connu, mais presque pas. Hein. Voilà. Et il m'a dit, voilà mes chansons. Ouais. Je lui ai dit, moi, je ne veux pas chanter ce que vous chantez. Je ne veux pas. Je veux pas, et vos chansons, vous allez les chanter tout seul, parce que moi, je ne peux pas les chanter, mais je vais en chanter une. Je vais en prendre une, qui est très difficile à défendre. C'est un combat, moi, j'aime bien ça. Non, je vais chanter Le Diable, ça va, Le Diable. Et puis, je l'ai fait. C'est une chanson étonnamment prémonitoire. Étonnamment... Si on lit bien le texte, on s'apercevra que tout ce qui se passe aujourd'hui est déjà écrit. C'est déjà écrit. Et je le sentais tout à fait. Je le sentais tout à fait.
Paris, 1954.
Eh bien, voici une chanson conformiste. C'est trop facile. C'est trop facile d'entrer aux églises, de déverser toute sa saleté face au curé qui, dans la lumière grise, ferme les yeux pour mieux nous pardonner. Tais-toi donc, grand Jacques, que connais-tu du bon Dieu? Un cantique, une image, tu n'en connais rien de mieux. C'est trop facile quand les guerres sont finies d'aller gueuler que c'était la dernière. Amis bourgeois, vous me faites envier. Vous ne voyez donc point vos cimetières. Tais-toi donc, grand Jacques, laisse-les donc crier, laisse-les pleurer de joie, toi qui ne fus même pas soldat. C'est trop facile quand un amour se meurt, qu'il craque en deux parce qu'on l'a trop plié, d'aller pleurer comme les hommes pleurent, comme si l'amour durait l'éternité. Tais-toi donc, grand Jacques, que connais-tu de l'amour, des yeux bleus, des cheveux fous, tu n'en connais rien du tout. Et dis-toi donc, grand Jacques, dis-le-toi, bien souvent, c'est trop facile. C'est trop facile de faire semblant.
Eh bien, c'était Jacques Brel. Jacques Brel, qui vient de terminer son tour de chant.
France Inter.
Quand on fait quelque chose, il faut plonger dedans comme un fou. Sans quoi il ne faut pas plonger. Sans quoi, il fallait rester à l'usine, vendre du carton ou se faire pompiste. Enfin, je ne sais pas. Donc là, c'est un problème d'honnêteté morale. C'est, voilà. Et je trouve ça très important. Je l'ai fait avec une énergie, si vous voulez, d'efficacité à un moment donné, pour une raison extrêmement simple. J'étais marié et on crevait de faim. Parce qu'après, l'usine, c'était moins drôle. Donc il fallait, c'était une question de survie, un phénomène de... C'était le bombard de la chanson, si vous voulez. Il fallait me donner à manger, quoi. Alors, pendant un certain temps, je faisais jusqu'à 7 cabarets par nuit, ce qui est énorme. Quand je repense à ça, j'ai peur. Ça faisait 9 chansons, donc ça faisait 49 chansons. En gros, je me souviens, je faisais 49 chansons par nuit. Et dans des cabarets pourris, avec des dames nues, enfin des choses de... Mais c'était pas triste du tout. Donc il y avait un problème de nourriture, de subsistance. Et après, une espèce de rage d'essayer de bien faire.
Au tout début, la mère tamisait les nouvelles. Il fallait pas ameuter les autres. Non, ça va, il dit que ça va bien, il dit qu'il se débrouille.
Je crois qu'il a chanté chez moi tous les soirs pendant près de 3 ans.
Patachou.
Et ce qui d'ailleurs causait un problème au maître d'hôtel qui prenait les réservations, car les gens téléphonaient en disant « Voilà, c'est quoi le programme cette semaine ?»« Ah ben alors, il y a un jazz, et Brel, encore ?» On pourrait peut-être de temps en temps changer. Quoi, je disais, quand mon maître d'hôtel me répondait ça, je disais, oui, laissez-les dire. Il arrivera un moment où ils pleureront pour l'entendre chanter la moitié du quart d'une chanson. Quand j'ai vu ce phénomène sur la scène, j'ai dit, oh là là, ça va faire mal, ça. Mais j'ai eu la même chose avec Brassens, ça. C'était l'évidence même, quoi. Ça se voyait.
Paris 1957.
Pour commencer, voici Jacques Brel. Le jeune chanteur-compositeur dont vous fredonnez les succès, un vrai poète qui ne fait pas de concessions, et que le Paris nocturne a le bon goût de s'arracher puisqu'il passe chaque soir aux Trois Baudets et au Drap d'Or, chez Patachou et à l'échelle de Jacob.
Par conséquent, Jacques Brel, vous faites toutes les nuits un certain voyage nocturne à travers Paris.
Oui, c'est une véritable cavalcade, parce que la nuit commence à Montmartre, continue à Saint-Germain, de là je repars à Montmartre pour terminer aux Champs-Élysées. Une chose intéressante, c'est que lorsqu'on est bloqué quelque part, on a le temps, et c'est le seul moment de la journée bien souvent, on a le temps de penser à une chanson, vous savez. Et ça m'a donné l'idée d'une espèce de conte de fées. Et ce conte de fées s'intitule Saint-Pierre.
Il y a longtemps de cela, au fond du ciel, le bon Saint-Pierre, comme un collégien se troubla pour une étoile au cœur de pierre. Sitôt conquise, elle s'envole en embrasant de son regard le cœur, la barbe et l'auréole du bon Saint-Pierre au désespoir qui criait et pleurait dans les rues du paradis, qui criait et pleurait et tout le ciel avec lui. Effeuillons l'aile d'un ange pour voir si elle pense à moi, effeuillons l'aile d'un ange pour voir si elle m'aimera. Saint-Pierre alors partit chercher à cheval sur un beau nuage, vainement dans la voie lactée, sa jeune étoile au cœur volage. Au paradis, lorsqu'il revint, devant la porte il est resté, n'osant montrer tout son chagrin à ses copains auréolés qui criaient et pleuraient dans les rues du paradis, qui criaient et pleuraient tout en se moquant de lui. Effeuillons l'aile d'un ange pour voir si elle pense à toi, effeuillons l'aile d'un ange pour voir si elle t'aimera. Mais le bon Dieu lui vint en aide, car les barbus sont syndiqués. Il changea l'étoile en planète et fit de Saint-Pierre un portier. Et de ses anges déplumés, par les amours du bon Saint-Pierre, afin de tout récupérer, il fit les démons de l'enfer, ceux qui crient, ceux qui pleurent à l'heure où naissent les nuits, ceux qui crient, ceux qui pleurent dans un coin de votre esprit. Effeuillons l'aile d'un ange pour voir si elle pense à moi, effeuillons l'aile d'un ange pour voir si elle m'aimera.
Pour ma part, j'ai connu Jacques Brel en 1956.
François Robert, orchestrateur.
Lors d'une tournée Canetti. Et puis après, à la fin de la tournée, c'était une tournée qui était longue, qui faisait 45 jours. Nous ne nous sommes plus quittés, quoi. Nous sommes restés amis. Alors d'abord, j'ai commencé par ajouter des petites notes au piano à ce qu'il faisait à la guitare, étant donné que sa guitare lui était indispensable et qu'il ne pouvait pas divorcer l'un de l'autre. Et au bout d'un petit moment, enfin quelques mois, on a fait des cabarets à Paris, on a continué à travailler ensemble, et j'ai essayé de lui faire comprendre que s'il ne s'améliorait pas techniquement à la guitare, il allait se meurtrir, se suicider, parce que c'est un peu comme si vous arrivez dans une gare et qu'il n'y a pas d'aiguillage. Nous, on a ce qu'on appelle dans notre métier les modulations. Les modulations, il faut savoir les faire, il faut savoir partir d'un ton pour aller ailleurs, ce qui permet une certaine diversité. Lui, n'étais pas très travailleur du côté de la guitare. Et je lui dis un jour, écoute, de deux choses l'une, ou tu continues, tu t'obstines, tu t'enfermes dans le peu de choses que tu sais faire à la guitare, ou t'abandonnes ce meuble que tu trimbales sur le ventre et qui te gêne plutôt qu'autre chose. Et à l'occasion, je me suis mis beaucoup de monde sur le dos parce qu'on m'a dit, Brel sans la guitare, ce n'est plus Brel. Eh bien, je trouve que j'ai tout de même eu raison parce que quel acteur nous aurions perdu et quel interprète nous aurions perdu. Et là, ça m'a permis évidemment d'avoir plus d'elle. Parce que pendant un temps, j'essayais de l'accompagner au piano dans les harmonies de sa guitare. Et évidemment, j'ai été beaucoup plus libre et j'ai pu bouger quand il a abandonné la guitare. Si vous voulez, le principal du travail avec Jacques Brel, ça se passait dans le petit bureau, là, et où nous faisions nos répétitions. Gérard Joannès est arrivé très vite parce que, comme Jacques faisait de plus en plus de tournées à l'étranger, je ne pouvais pas partir tout le temps de Paris. Et Gérard est entré dans le système. Alors il y avait une espèce de triumvirat et Gérard a apporté aussi sa qualité musicale et pianistique et technique.
Cette rencontre avec François Robert et Gérard Joannès va permettre au talent de Brel de s'épanouir musicalement et à sa carrière de progresser de façon significative, le hissant dès 58 au statut de vedette. Nous reparlerons de son métier de chanteur prochainement pour nous focaliser aujourd'hui sur la création d'une chanson et en particulier sur la genèse de son texte.
France Inter.
Avec Brel, la mise en page devient mise en scène, une façon unique de camper ses personnages. De silhouettes littéraires, ils deviennent héros tangibles d'une histoire musicale avant de s'incarner, au sens propre du terme, dans ce grand corps transfiguré par la scène.
Mais les mots portent. Les mots portent. Et il y a une chose, il faut dire, il y a une chose. Je suis incapable d'écrire assis. Je ne peux écrire que debout et corps tendu. Après, les gens me disent, tu as écrit, oui, tu es fatigué. Je dis, oui, j'ai mal aux reins. J'ai très mal aux reins après avoir écrit. Parce que, enfin, du moins certaines chansons, parce que je suis obligé d'avoir le corps tendu, parce que le mot ne me vient pas si je ne suis pas tendu, comme si j'étais un coq à cracher du feu. Enfin, je serais incapable de ça.
Ce qu'on peut faire, de toute façon, là, comme ça doit aller très vite, il faut faire un truc très simple. Il faut tourner autour de très peu d'harmonies. Un petit côté majeur, un petit côté mineur. En do. Pour ne pas se fatiguer utilement, parce que c'est pas pour toi que je vais. Avec un petit passage en. Un petit passage en mineur. Bon. Récitatif. Alors, sujet. Sujet, c'est quand même la nouvelle année. C'est un vœu, c'est une chanson d'espoir quand même.
Ben oui.
Même si elle est triste, elle doit parler d'espoir.
Par de là,
on
par
peut pas,
de là ça fait une idée.
Faire une chanson sur les. Sur les. Tu connais les bigotes? Tu connais la chanson Les Bigotes?
Oui, mais c'est pas pour moi.
Crie les bigotes, c'est pas pour vous, c'est les bigotes. C'est... On pourrait faire un truc, c'est un gars dans un quartier triste. Mais on ne sait même pas qu'il y a un quartier triste. Il a 20 ans. Et il lui manque tout ce qui est essentiel. C'est-à-dire qu'il lui manquerait sa mère, son père, puis peut-être d'autres dans la famille. C'est un drôle de tête, toi, t'as grossi. Hein. Tu connais les bigotes? Pas connaître les
bigotes. Non, mais
bon,
gars,
alors attends.
Donc, il est
tout seul. Il est tout seul dans hein. Il lui manque sa mère, il manque son père, il manque. Mettons un frère et une sœur. Hein. Ah, il faut trouver la première phrase. Alors, c'est. On commence par la mère, c'est quand même ce qui est vital. Alors, c'est. Ma maman n'est plus là. Ça fait pas nouvel an, ça. Il faudrait le faire, et c'est le futur. Ma maman va revenir. Quand ma maman reviendra. Quand mon frère y reviendra. C'est mon papa qui sera content. Quand il reviendra le faire un an, qui sait qui sera content? C'est moi. Il reviendra de sa prison, puis dit bah, 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 bah. Bon, ça va. Et puis là, on pourrait faire un truc qui serait rigolo, qui serait une espèce de pirouette, qui serait une espèce d'astuce. C'est-à-dire que, comme on dit que quand maman reviendra, papa sera content, On dit que quand mon frère reviendra, mon papa sera content. Puis on dit que quand ma sœur reviendra, mon papa sera content. On pourrait peut-être même aller jusqu'à dire que quand mon papa reviendra, mon papa sera content. Puis comme ça, j'espère que tu seras content aussi, parce que faire une chanson comme ça, c'est pour combattre.
Si ma maman revenait, qu'est-ce qui serait content, papa? Si ma maman revenait, qui c'est qui serait content? C'est moi.
Jacques, merci pour la chanson.
Pas de quoi, tu m'as eu. C'est correct.
J'ai eu la chanson.
Ah ouais, mais seulement, je regrette quand même une chose, parce que c'est pas exactement celle-là que j'aurais voulu chanter.
Laquelle?
Les bignottes.
Elle processionne à petits pas, de bénitier en bénitier, les bigotes. Et patati et patata, mes oreilles commencent à siffler, les bigotes. Vêtue de noir comme monsieur le curé, qui est trop bon avec les créatures, elles sont bigotes les yeux baissés, comme si Dieu dormait sous leurs chaussures de bigotes. Le samedi soir après le turbin, on voit l'ouvrier parisien, mais pas de bigotes. Car c'est au fond de leur maison qu'elles se préservent des garçons, les bigotes. Qui préfèrent se ratatiner de vêpres en vêpres, de messe en messe, toutes fières d'avoir pu conserver le diamant qui dort entre leurs de bigotes. Puis elles meurent à petits pas, à petit feu, en petit tas, les bigotes. Qui cimetièrent à petits pas, au petit jour, d'un petit froid de bigotes. Et dans le ciel qui n'existe pas, les anges font vite un paradis pour elles, une auréole et deux bouts d'ailes, et elles s'envolent, lolé, lolé. À petits pas de bigote.
Tous les soirs, quand je les chante, mes personnages, mes petits personnages, tous les soirs, ils sont quelque part, comme ça, à peu près dans Bruxelles ou en Belgique, quelque part. Et au fond, c'est la seule manière décente de raconter des petites idées qu'on a. Parce qu'une chanson, c'est petit, c'est infiniment petit, ça fait 3 minutes, c'est un couplet. Enfin, ça a des couplets, ça a des refrains. Alors on essaie de mettre tout un petit caractère, de dessiner toute une petite idée, enfin, dans un petit personnage qui est toujours un peu moi. C'est un peu tout le monde, c'est surtout un peu moi, je crois.
Oui, dans ces gens-là, quand ils parlent du gars qui a sa petite auto, son petit chapeau, moi je sais qui c'est, évidemment. Hein. C'est évident. Alors il a chanté les bonbons,
oui.
Il y a Léon et Germaine. C'est le couple qui est venu avec nous dans le Reto Congo, c'est Léon et Germaine, oui. Il prend des... Et Jeff soulève tes 100 kilos. Nous avions à l'usine un ancien chauffeur qui était devenu responsable de l'expédition qui pesait plus de 100 kilos. Donc il accrochait, c'est normal, hein, je trouve. Et le 30-33 que nous prenions tous à l'époque, il tournait au terminus près de la maison familiale pour descendre en ville.
Et puis, il y a l'autre. Des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas. on triche. Et puis, il y a les autres, la mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père qui mord d'une glissade et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Et ça fait des grands... Et ça fait des grands... Et puis il y a la toute vieille qui en finit pas de vibrer et qu'on attend qu'elle crève vu que c'est elle qui a l'oseille et qu'on n'écoute même pas ce que ses pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas. On compte. Et puis, y a Frida, qui est belle comme un soleil, et qui m'aime pareil que moi j'aime Frida. On se dit souvent qu'on aura une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de mur, et qu'on vivra dedans, et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être. Parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger les chats. J'ai jamais tué de chat, ou alors il y a longtemps, ou bien j'ai oublié. Ils sentaient pas bon, enfin ils veulent pas, enfin ils veulent pas. Parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors pour un instant seulement, alors moi je la crois, monsieur, pour un instant seulement, parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas. On s'en va pas, monsieur. On s'en va pas. Mais il est tard, monsieur. Il faut que je rentre chez moi.
Il existait sur scène comme personne, enfin... Il arrivait, il y avait une sorte de silence très, très épais, très lourd, très, très compact. Et la vie commençait. Et les odeurs arrivaient. Et les changements de temps. Je crois que jamais personne ne m'a pris aussi bien par la main. Il avait une présence physique étonnante. Alors que plein de mecs entrent sur scène et... n'ont apparemment pas de jambes dans leurs pantalons. Lui, on sentait plus les jambes que le pantalon. Au bout de sa veste, il y avait deux immenses mains qui étaient des choses de danse. C'était étonnant à voir, comme une marionnette fabuleuse, humaine, avec une économie extraordinaire de gestes, extraordinaire. Mais le fait même de lever une main pour lui, le fait même d'ouvrir ses mains, c'était éblouissant.
Jacques Brel sur France Inter.
Je vois ça quand je parle avec des jeunes qui disent qu'Yves Brel, ils sont accros à ça. Une révolte.
Arnaud.
Parce que lui, il a aussi une révolte et une anarchie dans lui. Et quand tu la vois sur scène, par exemple, Brel, quand on voit Brel sur scène comme ça, comme des vidéos, on n'a pas besoin des femmes nues autour de lui. Justement, sa tête sur un écran. Et ça prend à tes couilles. Hein, Donc lui, il a eu une expression sur sa tête quand il chante. Donc ses chansons parlent de sa tête aussi, ses expressions qu'il a fait avec son corps. C'était un furie, hein, de la dynamite.
Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui hantent.
au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des bergements. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de pierres et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon France. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles. Dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam.
Il est un athlète qui va affronter les Jeux Olympiques.
Danielle Audera, chanteuse québécoise.
Et il est en même temps, en plus de cet effort physique qu'il doit donner, il y a toute cette intériorité qu'il doit aussi projeter. Et il a le souci de se demander, est-ce que je vais bien être compris? Est-ce qu'ils vont bien comprendre ce que je veux dire? Et pour ça, il y a un état. Il faut qu'il se mette en état. Comme l'athlète. Et le travail de cœur à cœur, alors, se faisait au moment d'entrer en scène. Et avant. Je crois qu'un soir, il m'a dit une chose très, très drôle. Ça n'avait pas tellement marché. Et je suis sortie de scène et je lui ai dit, oh, ce soir, ils sont pesants. Et il m'a dit une chose que j'ai gardée longtemps, que je garde encore. Il m'a dit, tu sais, Audera, c'est pas un métier où on doit se faire plaisir. Il m'a dit, il faut leur faire plaisir en donnant quelque chose.
Quand un tour de chant est bien fait, c'est que le chanteur, enfin l'homme qui est là, a un contact avec lui, beaucoup plus qu'avec le public. Le public vous porte, oui, mais à l'efficacité de ce qu'on dit, c'est le contact avec soi qui est important. Vous voyez, il y a des jours où, quand on est très en forme, on chante et on s'entend chanter. On se voit chanter, presque. Alors c'est bon. Le silence me touche, oui. Mais le silence, c'est une chose extraordinaire, parce que c'est le seul moment où j'ai l'impression, parfois, que la salle chante avec moi. C'est justement quand il y a le silence.
Vu Vierzon, t'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul.
le voir en fleur et on a vu en fleur. T'as voulu le voir en bourre et on a vu en bourre. J'ai voulu le voir en verre, on a revu en bourre. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé en fleur, on a quitté en fleur. T'as plus aimé en bourre, on a quitté en bourre. J'ai voulu voir en verre, on a vu que c'est faux bourre. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur comme toujours. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais non, mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flanflans, de la valse musette et de l'accordéon. Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir du tronc et on a vu du tronc.
Encore?
J'ai voulu voir ta soeur, j'ai vu de mon Valérien. T'as voulu voir Autant, ce n'était dans le Cantal. J'ai voulu voir Byzance et on a vu Pigalle. À la gare Saint-Lazare, j'ai vu le fleur du mal par hasard. T'as plus aimé Paris, on a quitté Paris. T'as plus aimé du tronc, on a quitté du tronc.
Encore?
Maintenant je confonds ta sœur et de mon Valérien. De ce que je sais, d'autant j'irai plus dans le Cantal. Et tant pis pour Byzance, parce que j'ai vu Pigalle. Et la guerre Saint-Lazare, c'est cher et ça fait mal au hasard. Mais je te le redis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, le voyage est fini. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon.
Brel, aimé jusqu'à la déchirure. Une série proposée par la communauté des radios publiques de langue française et présentée par Morane. Archives sonores et production, INA, France Inter, Radio Suisse Romande, Société Radio-Canada et RTBF. Producteurs délégués Hélène Azera et Jean-Charles Simon. Mixage, Roland Fortan, Jean Cobergs, Pierre-Joseph Franquin. Réalisation Ninette Godefroy, une production de Philippe Luters.